Après ces chants, après ce témoignage, il m'appartient d'apporter aussi le témoignage de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous, si vous le souhaitez, si vous avez votre Bible avec vous, un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 5, et nous allons commencer à partir du verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Seigneur, je ne sais si dans ce lieu se trouve quelqu'un qui a besoin de ton secours d'une manière particulière, mais je sais une chose, c'est que, comme nous l'avons entendu au travers de ces chants, tu es vivant et que tout pouvoir t'a été donné sur la terre comme dans les cieux. Aussi, je te prie que ce moment de méditation puisse être utile pour quelqu'un qui a besoin de ton secours pour peut-être quelque chose de particulier. Toi, Seigneur, tu connais tous les cœurs. Rien ne t'échappe des vies. Et en fonction de ce que tu connais, je te prie, Seigneur, d'intervenir et d'agir en te glorifiant, en venant au secours de quiconque t'invoque maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, j'ai eu le privilège de connaître cet endroit qui est mentionné dans le texte que nous venons de lire. Je veux parler de la piscine de Bethesda. Le Seigneur m'a donné la possibilité d'être un jour là, dans les environs de cette piscine, et de me rendre compte de ce contexte dans lequel se trouvait ce malade quand il a été guéri par la puissance du Seigneur. Et j'aimerais cet après-midi, très simplement, vous faire part d'une chose qui me paraît importante. Le texte que nous avons lu commence par cette expression « après cela ». Et quand on lit quelques pages au préalable, on se rend compte que le Seigneur a fait des choses merveilleuses, il a guéri des malades, mais il a aussi apporté surtout un enseignement qui était particulièrement utile pour les âmes qui étaient en détresse. Et là, il arrive à cet endroit parce que c'est la fête des Juifs et Jésus s'est soumis comme cela à l'habitude de sa nation. Il est monté à Jérusalem pour célébrer cette fête, mais en allant vers Jérusalem, il est passé devant cette piscine de Bethesda. Je vous fais remarquer en passant aussi que tous les hommes religieux de son époque et qui montaient à Jérusalem pour les mêmes raisons étaient également passés devant cette piscine. Ils avaient vu tous ces gens malades, tout cet attroupement de personnes dans l'affliction, mais ils étaient passés avec la plus grande des indifférences. Mais Jésus n'est pas comme cela. Et Jésus, eh bien, a vu la souffrance de ceux qui étaient là. Il s'est arrêté pour considérer leur situation et pour intervenir afin que quelqu'un puisse expérimenter sa puissance qui est capable non seulement de guérir, mais de sauver, et nous allons le voir dans un instant. La Bible me dit que dans cette fameuse piscine, il y avait 5 portiques, et sous ces 5 portiques, il y avait des malades. Mais la caractéristique de ces malades nous est donnée. Il est ajouté, il y avait des aveugles, première catégorie, il y avait des boiteux, deuxième catégorie, et puis il y avait des paralytiques. Alors je voudrais considérer ces choses avec attention et avec vous. D'abord, les 5 portiques nous parlent de quelque chose qui se trouve mentionné dans l'Écriture. C'est vraiment connu dans le monde religieux et dans le monde chrétien en particulier que la loi de Dieu est contenue dans les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, ces 5 portiques-là sont un symbole de ce qui est écrit, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, et notamment par l'apôtre Paul, qui a dit qu'il a plu à Dieu de renfermer tous les hommes dans la désobéissance, et la loi met en relief que nous sommes tous des pécheurs. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, mais aussi pour faire grâce à tous. Alors voyez-vous, la loi nous condamne les uns et les autres. La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et je m'arrête simplement à ce premier commandement. Et je pose la question, qui peut mettre en pratique un tel commandement? Personne. Nous n'en avons pas la force. Et nous savons bien qu'il y a des jours où nous pouvons être enthousiasmés et nous pouvons dire au Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Puis il y a d'autres jours où nous sommes dans la plus grande des indifférences et notre cœur n'a même pas envie de prononcer le nom du Seigneur. Et le Maître est capable de voir tout cela. Le partage des hommes à l'heure actuelle, vous l'avez remarqué, c'est la plus grande des indifférences au sujet de Dieu. Et d'ailleurs, tout est fait pour aller à l'encontre de ce que Dieu lui-même a dit, de ce que Dieu lui-même a déclaré au travers de sa parole. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de malades, malades spirituels. Je m'explique. J'ai entendu avec une grande attention le témoignage rendu par notre frère. Et à un moment donné, il a dit simplement ceci, malgré certaines preuves, malgré certaines évidences, moi, je n'étais pas convaincu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était aveuglé. La première catégorie de pécheurs, c'est cela, aveugle. Et Paul nous explique dans son épître aux Corinthiens une chose qui paraît évidente. Le Dieu de ce siècle, dit-il, a aveuglé les hommes pour qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, tout les intéresse, sauf l'évangile. Tout peut avoir de l'intérêt, sauf la parole de Dieu. Tout peut les attirer, sauf le Seigneur lui-même. Il y a donc besoin d'une guérison à ce niveau-là. Parce que nous étions presque tous ici, aveugle dans ce sens-là. Et je voudrais vous dire, quand vous avez affaire à un aveugle et que vous vous trouvez, par exemple, devant un merveilleux paysage. Vous avez envie de lui communiquer, eh bien, la joie que vous avez à contempler le paysage. Et vous lui expliquez, vous lui dites, ah, mais il y a un panorama magnifique. Si tu pouvais te rendre compte, ça, c'est merveilleux. Tel arbre est magnifique. Le ciel est d'un azur pur. Et tout cela, vous le dites. Et vous ne faites qu'exciter en lui une certaine jalousie, et il vous dira, tout ça c'est merveilleux pour toi, mais pas pour moi. Or, il y a des personnes dans ce monde à qui nous disons, le Seigneur est merveilleux. Mais ils disent, mais moi, je ne le sens pas comme ça, je ne le vois pas comme ça. Et nous pouvons dire, mais il a fait des choses formidables. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'a pas ouvert les yeux de son cœur, eh bien il ne peut pas le réaliser. C'est la raison pour laquelle notre intérêt, c'est toujours de prier, et c'est ce que nous faisons avant chaque réunion, et en particulier chaque réunion d'évangélisation. Pourquoi ? Pour que lorsque la parole est annoncée, l'Esprit de Dieu accompagne le témoignage que nous rendons pour convaincre les hommes. Si le Saint-Esprit ne convainc pas quelqu'un de péché, de justice et de jugement, il restera dans son aveuglement. Voilà ces malades qui étaient là, première catégorie des aveugles. Deuxième catégorie, des boiteux. Alors c'est amusant, parce que mon frère, dans son témoignage, a rendu également ce fait, et c'est quelque chose que nous pouvons bien comprendre. Il disait à la fois, j'ai été attiré. Le témoignage de Ruth, ma femme, eh bien, allait dans le bon sens. Quelque part, je voulais marcher dans cette direction. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y avait aussi l'attraction, peut-être des choses du monde, d'autres intérêts. Et voilà la raison pour laquelle, eh bien, on aurait pu lui appliquer ce que le prophète Élie a dit dans l'Ancien Testament, quand dans un moment de colère contre le peuple de Dieu qui marchait en contradiction avec la volonté du Seigneur, il a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et vous savez, il y a dans le monde, je dirais chrétien entre guillemets, je devrais dire dans le christianisme, des hommes qui sont comme ça, un pied dans l'Église et un pied dans le monde, un pied avec la connaissance de ce que le Seigneur demande, mais en même temps avec un pied qui court dans le monde, marchant dans une autre direction. Faites l'expérience si vous le pouvez. Mettez un pied sur le trottoir et un pied sur la route et faites des kilomètres comme ça. Et vous allez voir si c'est fatigant. Eh bien, il y a des personnes qui sont boiteuses. Elles n'arrivent pas à se décider pleinement pour le Seigneur. En plus de cela, il y a les paralytiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise un paralytique? C'est quelqu'un qui vous dira, « Je voudrais bien marcher comme vous, mais je ne peux pas. Je voudrais courir comme cet enfant, mais je ne peux pas. » Vous savez, ce sont ceux qui sont dans l'impossibilité totale d'obéir au Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ici qui d'un seul coup se sent visé, j'aimerais lui dire, écoute, nous aussi nous étions dans cette situation-là. Nous aussi, nous avons dit, je voudrais, mais je ne peux pas. Et même pour mieux encore vous éclairer, il y a un homme que je considère, en dehors de la personne de Jésus, qui est bien sûr le personnage principal, le leader du christianisme, l'apôtre Paul lui-même, qui un jour a dit, misérable que je suis, je voudrais faire la volonté de Dieu, mais quand je veux la faire, je sens en moi une autre loi qui me pousse à faire exactement le contraire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis paralytique, je suis paralysé. Le pouvoir du péché en moi m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, il a crié et il a dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il avait donné la solution. Mais maintenant, voyez, je reviens à mon texte. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques, et Jésus arrive. Celui que nos amis ont chanté, il est vivant. Celui qui est venu, pour quoi faire? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Celui qui est venu pour guérir les infirmes, qui est venu pour sauver les hommes, celui qui est venu pour nous délivrer du pouvoir du péché. Alors, il arrive là, à cette fameuse piscine de Bethesda. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Oui, c'est curieux. Là, dans cette piscine, de temps en temps, il y avait un ange qui descendait, qui agitait l'eau. Et le premier qui était plongé dans l'eau était guéri. Cependant, quand on est paralytique, comme c'était le cas de celui que Jésus va guérir, alors, n'ayant personne, il n'était jamais, jamais délivré, et ça a duré pendant 38 ans. 38 ans. Et Jésus arrive, et il dit à cet homme qu'il remarque dans sa souffrance, « Veux-tu être guéri ?» Moi, je trouve presque que la question est superflue. Vous imaginez, s'il vous arrive de rencontrer une personne qui souffre depuis 38 ans et que vous lui dites « Voudrais-tu être guéri ?» Elle va vous dire « Mais vous êtes fou ou quoi ? Il y a longtemps que je voudrais être guéri. » C'est la réponse logique. Et lui, il a dit « Mais non, je n'ai personne. Et quand j'essaie d'y aller, quelqu'un d'autre va avant moi. » Mais comment expliquer que de temps en temps, seulement un ange descende ? Eh bien, je vous ai dit, les cinq portiques représente la loi, c'est-à-dire le principe de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, l'action du Saint-Esprit, elle se manifestait que de temps en temps. Elle était le partage des rois, le partage des sacrificateurs, le partage des prophètes, mais le commun des mortels, eh bien, ne pouvait pas bénéficier de cela. Le Saint-Esprit est venu comme le Seigneur l'a annoncé le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour-là, alors ça peut être le partage de tous les êtres humains qui ont soif et faim de justice. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que le Seigneur est capable de donner va se transformer un fleuve d'eau vive dans son sein, fleuve de paix, fleuve de joie, fleuve de délivrance. Et Jésus, qui est précisément là, présent, eh bien, va démontrer que lui, il est venu pour accomplir la loi dans sa personne, mais nous affranchir de la loi pour que nous connaissions une pleine liberté et que nous puissions marcher en vainqueur sur le péché. Dans la question de Jésus, elle n'est loin d'être ridicule, elle sort cet homme de la résignation. Comme il pourrait se faire que quelqu'un ici dise, eh bien, pour moi, la situation est telle depuis si longtemps que je ne pense pas que ça puisse changer. Je voudrais vous dire, tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, ça peut être le jour de la délivrance, ça peut être le jour du salut. Pourquoi Jésus a pu parler avec une telle autorité à cet homme en lui disant « Maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche ». Eh bien, parce que dans l'épître de Paul aux Romains, il est dit « Lorsque nous étions encore sans force ». C'est le cas de cet homme. Au temps marqué est mort, Christ, au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, juste après ces témoignages, après ces chants, il y a eu également ce cantique attaché à la croix pour moi. Il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos iniquités, il a payé le prix, il est mort à notre place. Si bien que, d'incapables que nous étions, parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, eh bien, Christ a fait cela par son sacrifice. Et par le moyen de son sang qui a coulé sur la croix, il a acquis la rédemption de notre âme. Et je ne peux dire aujourd'hui que je suis sauvé, que que parce que je sais que quelqu'un a payé pour moi. Oui, frère, vous aviez raison de dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même la vie d'un chrétien. Cependant, je veux dire ici, même si la vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, la vie du chrétien authentique, qui a saisi la grâce de Dieu, qui a compris que Christ a payé pour lui, qui a compris que son sang le purifie de tout péché et qu'il est justifié devant la face de Dieu, n'est pas une vie écrasée, languissante, mais une vie de victoire, parce qu'il n'y a pas de plus grand choix que de dire « Je suis sauvé », non pas par mes mérites, non pas par ma force, mais par le prix que le Seigneur a payé sur la croix. Et quand on sait cela, eh bien, on est libre, on est affranchi. Oui, à partir de ce moment-là, on peut marcher à nouveauté de vie. Ah, je vais terminer dans quelques instants. Je vais vous dire, se tourner vers le Seigneur, ça se fait en quelques secondes. Mais apprendre à obéir à Dieu, ça demande toute une vie. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Je peux en un instant dire « Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. » Mais il faut toute une vie pour que le Seigneur règne dans notre cœur et qu'il ne soit pas seulement le sauveur, mais le Seigneur. Et regardez ce qui s'est passé pour cet homme. Guéri, délivré, je l'imagine, en train de sauter et de gambader. C'est normal, après 38 ans, étant infirme, qu'il ressente une joie immense dans son cœur. Alors, il est là, et tout le monde le remarque, surtout les hommes religieux, parce que le miracle s'est produit un jour de sabbat, et pour le juif, ça, c'est sacré. On ne doit pas porter quoi que ce soit, aucun fardeau. Imaginez un peu, si pour lui c'était un fardeau de porter le lit dans lequel il était esclave pendant 38 ans. Ce n'était pas un fardeau, c'était une joie immense. Et là, les hommes le rencontrent et lui disent « Mais il ne t'est pas permis de porter le lit, c'est pas possible, tu sais bien que c'est le jour du sabbat. Qui t'a dit de faire cela ?» Et là, il est bloqué. Il a goûté à la grâce de Dieu, mais il ne connaît pas le donateur. Il dit, je ne sais pas. Mais vous voyez, je tiens à vous encourager et vous dire, le Seigneur ne nous lâche pas comme ça. Vous avez vu pour le frère ce qu'il a fait? Il a poursuivi l'épouse, puis le témoignage de cet homme, puis ses versets. C'est comme si le Seigneur le pointait du doigt et lui disait « Tu m'échapperas pas ». Quand le Seigneur a sa vue sur quelqu'un, il va jusqu'au bout. Et la Bible dit que quand il commence une œuvre, il la rend parfaite. Alors, cet homme ne connaissait pas, mais il est allé au temple. Et Jésus s'est trouvé au temple. Et là, il l'a rencontré. Et il lui a parlé alors, en déclarant qui il était. Mais il a ajouté, « Va maintenant et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. » Oui, mais « Va et ne pêche plus », c'est facile à dire. Écoutez bien, mes frères et sœurs, Jésus est le seul qui peut donner un ordre et en même temps nous communiquer la force d'obéir à son ordre. Il rencontre un homme qui a la main sèche. Tout le monde regarde cet homme à la main sèche. Et tout le monde fait de lui un moyen de spectacle. Il est dans la synagogue, Jésus le remarque, et lui, il a de la peine pour cet homme. Il est plein de miséricorde. Et il dit, lève-toi là, au milieu. Comme si, dans le fond, il voulait attirer le regard de tous sur ce qu'il allait faire. Et qu'est-ce qu'il va dire à cet homme? « Étends ta main, dites-moi, qui a le pouvoir de faire cela ?» Et cet homme entend la parole du Seigneur, elle pénètre dans son cœur, et c'est comme s'il disait « Si Dieu me dit d'étendre la main, alors il me donne la force de le faire, et il l'a fait, et il était guéri. » quand il dit à cet homme, va et ne pêche plus, ça veut dire qu'il lui communique la force de marcher en nouveauté de vie. Quand on est de nouveau, on ne marche plus sur les principes de cette ancienne nature qui nous tirait vers le bas. On a une nouvelle nature, et cette nouvelle nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aspire aux choses d'en haut. On marche en nouveauté de vie. Voilà la victoire. Et ça, c'est de jour en jour, de progrès en progrès, jusqu'au jour où, et je termine là, tel est le Seigneur, tel aussi nous serons, si nous le laissons agir dans notre cœur par sa parole. Ce qu'il nous demande, c'est de la recevoir et de la vivre en lui faisant confiance. Et la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Son visage ne se couvre pas de honte, mais il est au contraire rayonnant de joie. Et c'est le partage de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Je voudrais terminer en vous disant, je souhaite que tous puissent connaître cela d'une manière expérimentale et véritable. Que Dieu vous bénisse.